Radio Okapi.
Oh, Okapi. Daniel Tambizoni pour le journal.
Bienvenue à toutes et à tous, bonjour à ce rendez-vous de l'actualité sur Radio Okapi. Le gouvernement de Kinshasa doit respecter ses engagements et permettre à la province de l'Ituri de retrouver sa stabilité et son développement. C'est la recommandation du président de cette institution à la délégation des évêques en mission pastorale en Ituri. Hausse du prix du ciment gris à Mbujimayi, $33 contre $23 il y a de cela deux mois, cela à cause de la pénurie sur le marché. Les usagers se plaignent, mais à la Fédération des entreprises du Congo, la hausse de $10 répond à la loi de l'offre et de la demande. L'invité de ce journal est le général Johnny Luboya, commandant de la première zone de défense. La présence en masse de réfugiés centrafricains dans le nord et sud Ubangi peut engendrer, selon lui, des soucis sécuritaires et humanitaires. Son interview est à écouter avant la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Le bureau de l'Assemblée provinciale de l'Ituri demande à l'État congolais de respecter ses engagements afin de permettre à cette province de retrouver sa stabilité et poursuivre son processus de développement. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de cette institution au sortir de l'audience lui accordée samedi par la délégation des évêques membres de l'ACEAC, entendez, Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, et de la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, qui séjourne à Bunia. Et pour sa part, le chef de bureau de la MONUSCO salue l'arrivée de ces prélats qui, estime-t-il, pourront faire un plaidoyer auprès de la hiérarchie après avoir rencontré toutes les différentes couches sociales. Le point avec vous, Jacques Loki.
C'est d'abord l'équipe de l'exécutif provincial qui a été reçue par les évêques catholiques en mission pastorale dans l'Ituri. Ensuite, le tour du bureau de l'Assemblée provinciale de présenter la situation sécuritaire et humanitaire dans la province. Pour Julia Dabaï, porte-parole de ce bureau, c'était une belle opportunité de mettre à la disposition de ses visiteurs les pistes de solutions pour que l'Ituri retrouve une paix durable.
Au niveau de la hiérarchie, dès qu'il a amorcé un mécanisme qu'il puisse aller jusqu'au bout, les cas des FPPI, il va falloir justement que le chef de l'État puisse savoir comment relancer et aller jusqu'au bout de ce processus, que ce soit d'un côté FARDC, de l'autre côté PNC, qui les prennent à charge pour qu'ils puissent également travailler de la bonne manière.
C'est pourquoi José Obat, chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, se dit content de l'arrivée de ces évêques qui, explique-t-il, jouent un rôle très important dans la recherche de solutions aux problèmes auxquels fait face la RDC.
Je crois que c'était une bonne chose pour que les délégations viennent ici. Et je suis sûr qu'ils vont continuer à faire les plaidoyers qu'on puisse chercher les solutions pour les problèmes de sécurité ici dans la province.
Vendredi dernier, cette délégation des prélats catholiques s'est rendue au site des déplacés internes de Kigonze, ici à Bunia, à qui elle a remis un lot de médicaments en signe de réconfort. Bunia, Jean-Claude Loki Dile, Radio Okapi.
Voilà, il s'agissait de Jean-Claude Loki Dile et non Jacques Dile, comme je l'ai dit. Le gouvernement provincial du Nord Kivu, les FARDC ainsi que la MONUSCO ont effectué hier samedi une mission conjointe dans les localités de Kamango et Nobili en territoire de Béni. Sur place se trouvent des déplacés qui ont fui les attaques des ADF de ces dernières semaines dans le secteur de Rwenzori. Selon le gouverneur du Nord Kivu, l'objectif de cette mission était d'encourager la population qui reçoit des déplacés dans les familles d'accueil, encourager également les forces de défense et de sécurité ainsi que les casque bleu de la MONUSCO déployé à Kamango et Nobili pour protéger la population. On écoute Carlin Zanzo Kassivita au micro de Martial Papi Mukeba.
Nous sommes venus avec le commandant Sego de Sokola 1, aussi accompagné par le chef de bureau de la MONUSCO et le général qui commande les troupes de FIB. Notre arrivée à Kamango et à Nobili, c'est d'abord compatir aussi avec notre population qui est meurtrie, mais aussi encourager, remercier la population de Kamango qui a réussi les déplacés des secteurs de Rwenzori, qui ont manifesté la solidarité africaine, mais aussi appelé les intervenants internationaux nationaux pour regarder la situation humanitaire, aussi encourager les FARDC et les services de police, mais aussi les troupes de la MONUSCO qui sont déployées ici à Kamango, à Nobili, pour la sécurisation de notre territoire, mais aussi pour la sécurisation de notre population.
Nord Kivu encore et en territoire de Rutshuru, deux personnes ont été fusillées dans la nuit de vendredi hier à samedi à Nyamilima, situé à 40 km au nord de Kiwanja en groupement de Binza. Il s'agit d'un joueur de football du football club Masasi et un militaire FRDC. Le drame est survenu pendant la réjouissance après le match de football qui s'est soldé par la victoire du FC Masasi 4-1 sur le FC Kinyantoni au stade Tatangabu de Nyamilima. Bernadine Diambo nous en dit plus.
Un joueur du FC Masasi de Nyamilima a été fusillé par un militaire PEM en patrouille vers 21h locale à Nyamilima. Selon des sources concordantes, l'incident s'est produit lorsque les joueurs du FC Masasi s'est réjoui de leur victoire sur le FC Kinyandoni dans un bar sur place. C'est alors que les joueurs, en sortant, n'ont pas réglé la totalité de leur facture de consommation. Voilà ce qui a engendré la dispute entre les joueurs et les tenanciers de ces bars. Pendant la discussion, les militaires PEM en patrouille ont surgi sur les lieux. L'un des militaires a obligé à Jean-Cy d'ôter ses souliers, mais ce dernier a refusé. Du coup, le militaire a tiré sur lui au niveau de l'abdomen. Vu l'acte posé, un des militaires a également tiré sur son compagnon. Les deux ont été acheminés à l'hôpital général de Nyamilima pour des soins. C'est à 4 heures de ce matin que le militaire a rendu l'âme, tandis que le joueur est dans un état critique, affirment nos sources. Ce matin, les jeunes en colère se sont rendus sur les lieux du drame où ils ont démoli les barres ainsi que quelques effets. Mais ces derniers ont été vite maîtrisés par le militaire ainsi que la police. Contactés, l'administrateur du territoire confirme l'information. Toutefois, Justin Mokanya dit attendre les rapports des services de sécurité dans la zone quant à ces. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Rendons-nous dans le Kasaï oriental pour parler de la hausse de prix de sacs de ciment gris en Mbujimayi. Le sac de 5 de ciment de 50 kilos se vend actuellement à $33 américains contre $23 il y a cela 2 mois. Le Kasaï oriental s'est approvisionné en ciment il y a cela 3 mois par le pôle Ndumba dans le cadre du projet financé par le Fonds de promotion industrielle. Ce projet lui-même est aussi actuellement confronté à des difficultés d'approvisionnement en ciment. Le niveau d'eau a baissé par manque de pluie depuis le mois de novembre dernier et du coup, les embarcations ne peuvent plus accoster à cause du banc de sable et de la voie fluviale qui n'est pas balisée entre Lusambo et Ndomba. La rareté du ciment s'est ainsi créée. Les $10 supplémentaires répondent à la loi de l'offre et de la demande. C'est ce que dit Dominique Ilunga, directeur provincial de la Fédération des entreprises du Congo, Mbujimayi, joint par Esther Dalafina.
Nous avons un problème d'approvisionnement pour le moment. Nous croyons qu'avec la voie de Ndomba, les approvisionnements pouvaient être réguliers. Mais malheureusement, nous sommes encore butés aux difficultés de niveau d'eau et de dragage, de balisage de cette voie-là pour que les fluctuations ou les mouvements puissent être beaucoup plus fréquents. Mais malheureusement, lorsqu'on approvisionne par la voie SNCC, il y a toujours des interruptions. Vu la demande aujourd'hui sur terrain, nous assistons à cette situation, c'est-à-dire il y a hausse de prix sur le marché, étant donné l'offre qui est trop petite et la demande très importante. Nous espérons qu'avec le début des travaux de balisage ou du port de Ndomba, que les choses pourront vraiment se normaliser. Mais surtout, nous comptons sur la SNCC pour qu'elle puisse, en attendant toutes ces choses, multiplier les fréquences de manière à ce que nous ayons un stock très important localement. Et là, vraiment, ça répondra à la demande qui est très importante.
Dans la province du Sud Kivu, le député national Olive Moudekere Zanamegabe plaide pour la délocalisation de la ville de Bukavu vers d'autres lieux où les conditions urbanistiques sont encore sûres. L'élu du territoire du Walungu dit craindre la situation actuelle des éboulements et autres catastrophes naturelles qui affectent la ville de Bukavu chaque jour. Il demande ainsi l'implication immédiate du gouvernement congolais avant que le pire n'arrive. Olive Moudekereza alerte aussi sur d'éventuelles autres catastrophes qui risquent d'endeuiller toute la nation. On l'écoute au micro de Emmanuel Elamejouaka.
nous risquons de disparaître dans cette ville de Bukavu. Vous savez que c'était la meilleure ville en Afrique et au monde. C'est la ville qui a abrité le premier congrès international sur le tourisme en 1936. Mais aujourd'hui, regarde comment la ville est en train de disparaître. D'ailleurs, je ne sais pas si réellement on faisait des statuts de ville, si nous pouvons encore avoir les statuts d'une ville. Les maisons s'écroulent la journée. Il faut que le gouvernement provincial initie des projets et qu'au niveau du gouvernement central, parce que ça implique beaucoup de moyens, qu'on réfléchisse comment faire pour la ville de Bukavu, parce qu'il y a une pression, une forte demande d'habitat et on ne sait rien faire si on envisage rien comme nouvelle ville ou extension de la ville. Mais l'État a l'obligation de protéger ses citoyens en venant construire pour la ville de Bukavu vers Mudaka, Katana, Walungu, Nyangezi, Kamanyola, Mugogo, jusqu'à Burale. Construire des logements sociaux. Il faut une vision déjà. Sinon, dans la ville de Bukavu, nous risquons tous de disparaître, de nous retrouver dans les lacs Kivu. Parce que tu peux croire que tu es bien protégé, ta belle maison, un bon coin, mais avec les eaux des voisins qui s'imprègnent un jour s'il y a un petit tremblement. Donc, pour la ville de Bukavu, il faut que les autorités nationales s'impliquent.
Alors, présent dans la province du Maniema, le président de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, ESU Maniema, salue la décision du ministre de l'ESU contenue dans sa note circulaire numéro 020 du 21 janvier 2021 concernant les dispositions en rapport avec les activités au sein des établissements de l'ESU en période de COVID-19. Professeur Expedite Kabungama Yuka a tenu un point de presse à ce sujet pour relayer ce message du ministre Thomas Kalosenjola. Ce dernier a invité ses pairs à y aller avec beaucoup de sérieux. Écoutons le professeur Expedite Kabungama au micro de Florence Kizalunga.
Donc c'est avec joie que nous avons accueilli la nouvelle parce que nous sommes appelés à former, à instruire, à éduquer les enfants. Et quand on nous autorise de faire notre travail, nous ne pouvons qu'en être très satisfaits. Dès que j'ai reçu la note circulaire, j'ai pensé à appeler la presse, faire un point de presse pour faire large diffusion de la note circulaire. Et au niveau de la conférence, j'ai demandé à mes collègues chefs d'établissement de réunir sans attendre leur comité de gestion parce que c'est hier, vendredi, que nous avons reçu la note circulaire. Et j'ai invité mes collègues à réunir le comité de gestion à partir d'aujourd'hui samedi pour que les secrétaires généraux, à l'issue de ces réunions du comité de gestion, puissent instruire les doyens, les chefs de section, les chefs de département, d'élaborer les horaires des cours et que, au plus tard, par exemple, lundi prochain, les cours commencent le 25. Nous allons y aller de manière très sérieuse pour que nous ne connaissions pas de retard, évidemment en attendant le calendrier qui sera communiqué.
Pendant ce temps, dans le Sud Kivu, le Collège des étudiants des établissements d'enseignement supérieur et universitaire demande au gouvernement de Kinshasa d'élargir la mesure de reprise des activités académiques dans toutes les autres provinces. Ces étudiants réagissent ainsi à la note circulaire du premier et du ministre Thomas Luaka qui autorise la reprise des activités académiques seulement dans quelques provinces du pays. Pour les étudiants du Sud Kivu, tant que les débits de boissons, les églises et les marchés fonctionnent normalement malgré le COVID-19, eux aussi doivent étudier dans le respect strict des mesures barrières. Roméo Ushindi Kazine, président du Collège provincial des étudiants du Sud Kivu, au micro de Emmanuel Elamejua Kabedi.
Pour nous, cette mesure, nous la jugeons toujours inappropriée, nous la jugeons toujours fantaisiste, et donc nous serons toujours dans la rue, nous allons encore réexiger jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause de tout ce que nous sommes en train de pouvoir réclamer. C'est une mesure qui ne fait pas vraiment toujours face aux vraies réalités. Donc, il veut tellement apaiser les tensions du fait que les étudiants ont réclamé, mais en fait, ils n'ont rien résolu. Parce que les problèmes restent toujours persistants. Parce que le marché, les bars continuent à fermer. Et donc, peut-être certains de nos étudiants sont en train même de réclamer maintenant qu'on nous laisse alors étudier dans les bars si c'est dans les bars qu'il n'y a pas de contamination. Plus ce sont des étudiants, ce sont des intellectuels qui comprennent les enjeux de la situation. Et donc nous sommes les premiers d'ailleurs à pouvoir appliquer ces mesures qu'on nous laisse étudier. Nous allons continuer à étudier et respecter les mesures barrières.
La République démocratique du Congo traverse un moment difficile de son histoire. Le social du peuple congolais laisse à désirer. C'est en ces termes que l'Alliance des bâtisseurs pour un Congo émergent, ABCE, justifie son adhésion à l'Union sacrée de la nation afin de soutenir la vision du président de la République pour la refondation de l'État. La déclaration est de Jean-Claude Bayindé hier samedi 23 janvier ici à Kinshasa. Jean-Claude Bayindé, mandaté par Athanase Matenda, autorité morale de ce regroupement politique afin de confirmer cette adhésion à l'informateur Jean-Claude Bayindé, le dit au micro de Paul Matendo.
La BCE est composée de 12 députés nationaux au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale et tous nos députés sont d'avis que notre pays traverse un moment difficile de son histoire. La population n'arrive pas à nouer le début du mois. Et le social du Congolais laisse à désirer. Et l'ABCE, en tant qu'un parti qui prône la refondation de la République, l'ABCE qui prône l'émergence de notre pays, ne peut que contribuer à cet élan lancé par le chef de l'État pour qu'ensemble nous puissions parvenir à reconstruire notre pays et à donner le bien-être à notre population. L'ABCE vient dans l'union sacrée de la nation sans condition.
La République démocratique du Congo doit devenir un État fort avec des agents formés et régulièrement recyclés, équipés et bien motivés. C'est l'essentiel du cahier des charges du regroupement politique Alliance pour la transformation intégrale du Congo, ATIC, déposé au bureau de l'informateur Modeste Baratilukwebo hier samedi. Jean-Paul Nimuyato, autorité morale de ATIC, l'a dit à la presse juste après son entretien avec l'informateur Jean-Paul Nimuyato au micro de Paul Matendo.
En fait, le regroupement que vous voyez, nous défendons des valeurs républicaines basées sur l'état des droits, la réhabilitation de l'autorité de l'État et un certain nombre de réformes, notamment dans les domaines de sécurité. Le regroupement que vous voyez est en train de soutenir en fait, les réformes qui conduisent à la refondation de l'État. Nous voulons que l'État soit un État fort et qui a des agents formés, régulièrement recyclés, équipés et bien motivés. C'est ça l'essentiel du cahier de charges que nous avons déposé auprès de l'informateur. Le regroupement est disposé à accompagner le chef de l'État dans le cadre de cette nouvelle vision républicaine.
Actualité internationale.
La CEDEAO rappelle le Mali à ses engagements et demande la dissolution du CNOSP. La CEDEAO veut que le président Bandao et son gouvernement de transition respectent sa feuille de route. Des élections doivent avoir lieu sur l'ensemble du territoire malien dans 14 mois maintenant et pour ne laisser aucun espace à la moindre tentation d'empêcher ce processus, les chefs d'État de la CEDEAO exigent la dissolution immédiate du Comité national de salut du public.
L'invité.
Le commandant de la première zone de défense des FARDC en ce moment en mission dans les provinces du Nord et Sud, Oubangui est l'invité de notre journal. Il ne veut pas se laisser piéger par l'actuel afflux ces dernières semaines de réfugiés centrafricains dans la partie nord-ouest du pays, lequel peut susciter d'énormes problèmes sécuritaires et humanitaires. Le général Johnny Luboya Kachama parle de son constat et des dispositions prises dans cet entretien téléphonique avec Paul Richard Malengela.
Général Johnny Luboya, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quel est l'objet de cette visite dans le Grand Équateur?
Oui, comme vous l'avez appris, nous avons eu des réfugiés centrafricains qui sont entrés chez nous. Et vous savez, quand les réfugiés entrent, ils amènent toujours certains problèmes d'ordre sécuritaire et humanitaire. Moi, en tant que commandant première zone de défense, mon travail, effectivement, c'est d'évaluer la menace sur le plan sécuritaire. Voilà pourquoi le commandant suprême, en dessous, on est très près de cette situation, à des commandants généraux que je sens dans le plus bref délai.
Vous êtes sur place là-bas. Quel est votre constat sur la situation sécuritaire dans cette partie du Grand Équateur?
Il faut dire que pour le moment, c'est calme. Mais il y a quand même un peu d'inquiétude parce que moi, la population qui voit les réfugiés traversés, ils s'inquiètent un peu. Mais c'est vraiment calme. Que ce soit à Yakoma, que ce soit à Zongo, que ce soit à Bili, où nos équipes se sont rendues.
Mais il y a quand même des traversées qui continuent.
Oui, évidemment, ils continuent encore. Parce que, comme vous le savez, il y a tous ces groupes armés de l'autre côté qui ne cessent de créer un peu l'insécurité. Donc la population brise de contact chez nous.
Mais selon les informations en votre possession, qui sont en train de s'affronter de l'autre côté?
Ça, je ne saurais pas vous le dire, hein, mais je sais qu'il y a une rébellion et puis vraiment, il y a les Sénégal et les anti-Baraka et tout ce que vous voulez. Ça, je ne peux pas aller dans les détails.
En général, vous êtes sans ignorer qu'il y a la porosité de la frontière de la RDC avec la Centrafrique compte tenu de la rivière qui la traverse. Qu'entendez-vous faire pour faire face donc à toute velléité étrangère?
Nous sommes là, nous faisons ce qu'on appelle l'anticipation. Déjà, on avait créé un secteur au nord et sud d'Anguille, tout en sachant qu'il y a quand même une certaine probabilité de menace ainsi de suite, où là il y a vraiment les affrontements. Et donc, le secteur est là parce que on avait déjà vu ce affrontement, on avait déjà prévu qu'il pouvait y avoir des problèmes chez nos amis là-bas. Alors, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que effectivement, là, le secteur est là, mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, nous allons encore évaluer ce qu'on dit la valeur opérationnelle. Donc, c'est de savoir répondre, n'est-ce pas, à la menace à que j'ai été dépêché. Donc, je vais voir si, effectivement, par rapport à la menace, nous pouvons donner une bonne réponse. Ou ici, il faut encore améliorer la valeur opérationnelle.
Alors, s'il faut une bonne riposte, comme vous venez de le dire, à ce jour, avez-vous des hommes et du matériel disponibles afin d'accomplir cette mission à merveille?
Mais vous avez dit que nous avions anticipé, il y a déjà un secteur opérationnel. Ça, c'était dans l'anticipation. Donc, nous avions déjà un secteur opérationnel. Sur les eaux, nous avons toute une base qui est là pour être présente sur la rivière Oubangui. Et sur terre aussi, nous avons des régiments. Maintenant, par rapport à la nouvelle situation qui s'est créée, je vous le répète encore, avec la valeur opérationnelle que nous avions avant, il faut améliorer là où il faut compléter. De toutes les façons, lorsque je vais faire le rapport au chef d'état-major général et qui le fera au commandant suprême, donc vous allez voir la réaction, parce que comme vous le savez, le commandant suprême suit de très près cette situation-là.
Enfin, l'efficacité de la réaction de l'armée dépend aussi de sa collaboration avec la population civile. Est-ce que vos hommes sont en bon terme avec la population locale? Qu'est-ce que vous entendez faire par rapport à cela?
Oui, je vous informe que durant tout mon périple, j'ai pris un expert dans les relations civilo-militaires avec qui nous avons été partout. En plus, moi-même, j'ai eu des réunions avec le comité provincial de sécurité pour savoir l'information du terrain. Enfin aussi, j'ai parlé avec la société civile, donc j'ai pu recueillir quelques bribes d'informations et je vous assure que qui n'a pas tellement tenu sera reparé.
Par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, la population civile craindrait que cela ne puisse dégénérer à l'instar de ce qui se passe à l'est. Alors quel est le message que vous adressez à la population du Grand Équateur qui vous écoute en ce moment pour sa sécurité?
Oui, d'abord je dois vraiment remercier cette population parce que en me voyant, j'ai vu, ils m'ont réservé un très bon accueil parce que partout où j'ai passé, j'ai vu des populations tout simplement parce qu'ils avaient été informés que le commandant suprême avait envoyé, moi je ne suis pas un politicien, mais ils avaient envoyé quelqu'un, ils avaient envoyé quelqu'un pour évaluer, pour voir ce qui s'est passé de visu. J'ai eu un accueil très chaleureux. Et donc, nous, on ne peut pas décevoir cette population. Un de ces quatre matins, elle va voir la réaction du chef. Ça, c'est un. Et puis, de deux, qu'elle se tranquillise. Qu'elle se tranquillise parce que nous sommes là, nous sommes présents.
Général Johnny Lubuya, merci.
Merci à vous aussi.
Voilà, le commandant de la première zone de défense FRDC, invité de ce journal, répondait à Paul Richard Malingelay. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition sur www.radiocapi.net.